France Culture. Dominique Schnapper, bonjour.
Bonjour.
Vaste sujet que le sujet de ce cinquième et dernier épisode, puisque nous allons parler de la démocratie. Là encore, vous y avez consacré un certain nombre d'ouvrages, au moins quatre. J'en ai relevé quatre principaux, on va dire. La démocratie providentielle, les désillusions de la démocratie en France, l'esprit démocratique des lois, je le dis dans le désordre. Vous avez beaucoup réfléchi au fonctionnement, à l'organisation de notre société, à ce que aujourd'hui certains appellent la fatigue démocratique. Avant d'entrer dans le vif du sujet démocratique, une question en procédant un peu comme nous l'avons fait dans l'épisode précédent. On vous a laissé avec la République au début de vos travaux. République, nation. Il me semble que vous parliez moins de la démocratie que de la République. Au départ, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que c'est justifié ou pas du tout? Que vous êtes passé plutôt de l'idée républicaine à l'idée démocratique? Ou est-ce que les deux sont absolument liés?
Il me semble que les deux sont liés et que c'est un peu deux courants de la forme démocratique, celle qui est plus républicaine et celle qui est plus démocratique. Mon ami Philippe Reynaud a beaucoup analysé ces deux modalités ou ces deux courants de la démocratie moderne, celle qui est plutôt celle des États-Unis et la forme républicaine en France. Alors, quand j'ai parlé des autres pays, j'ai parlé des États-Unis en particulier dans la relation à l'autre. Mais enfin, tout de même, l'essentiel de ma réflexion porte sur la France. Et c'est pour ça que j'ai plutôt parlé sur la République, mais en pensant au cas français. Mais le cas français n'est jamais qu'une des formes qu'a prise la démocratie dans les différentes traditions historiques. Selon l'histoire de chacun de ces pays, la démocratie prend une forme différente. C'est pour ça que ce que nous défendons dans la démocratie française ou dans la République française n'est pas forcément le modèle de ce qui devrait être fait dans les autres pays, parce que chaque histoire démocratique a ses caractéristiques qu'il faut respecter.
Il y en a qui défendent un peu plus l'idée républicaine et d'autres l'idée démocratique. On les oppose, on les a opposés, disons, au tournant des années 2000.
Oui, on les a opposés et je crois que les analyses de Philippe Reynaud sont très convaincantes. Il y a celles qui insistent sur la liberté des individus contre l'État, c'est la tradition américaine ou démocratique, et ceux qui insistent plus sur la liberté par l'État, et c'est l'idée républicaine française. Mais les deux ont les mêmes principes de fond, reposent sur la même idée de l'humain et des relations entre les humains. Mais en même temps, l'histoire différente fait que la liberté d'expression, par exemple, n'a pas le même sens en Amérique et en France. C'est deux courants, le courant plus démocratique aux États-Unis et plus républicain en France.
Si on reste sur ce cas français, qui a été donc votre objet d'étude, Dominique Schnapper, d'autres se sont intéressés, d'autres penseurs, d'autres, alors tantôt historiens, tantôt plus philosophes, et puis bien sûr beaucoup d'essayistes se sont intéressés à ce régime démocratique, à ses forces et à ses faiblesses, pour le dire très schématiquement. Je pense notamment à Marcel Gauchet ou à Pierre Rosanvallon. Comment situez-vous vos analyses par rapport à eux?
Je crois que c'est trois projets intellectuels un peu différents, c'est-à-dire que moi je reste sociologue, donc je reste très proche des réalités historiques et sociales telles qu'on peut les observer. Marcel Gauchet est un philosophe et il pense plutôt la philosophie de la démocratie, il me semble. Mais quand nous avons discuté, nous n'étions pas du tout en désaccord. Nous avons des types. Alors, dans le cas de Pierre Rosanvallon, il y a des travaux différents. J'avais beaucoup apprécié Le Sacre du citoyen, qui était un livre d'histoire de la pensée du citoyen au XIXe siècle, que j'avais trouvé très intéressant. Depuis, je suis moins convaincue par ses travaux et par les idées par lesquelles il pense qu'on pourrait revitaliser la société démocratique. Donc je pense que autant je l'appréciais en tant qu'historien, en tant que philosophe de la démocratie, il me semble que nous ne sommes pas tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde.
Nous aussi, on garde en tête la nécessité de revitaliser la démocratie pour la fin de cet épisode, parce que de fait, la démocratie ne se porte pas très bien. Alors, la première question qui se pose, même si vous avez cheminé au fur et à mesure des années, Dominique Schnapper, dans votre réflexion sur la démocratie et sur ses critiques, mais première question, c'est est-ce que ce que nous rencontrons comme problème au pluriel aujourd'hui avec la démocratie, c'est conjoncturel ou structurel ? Vous vous dites, de toute façon, la démocratie porte en elle un caractère utopique, elle est toujours décevante parce qu'on en attend beaucoup, elle porte en elle et elle engendre des frustrations nécessairement à la hauteur de nos attentes. Et donc elle est toujours fragile. Ça la rendrait la crise plutôt structurelle. Et pourtant, on voit bien qu'il y a aussi des phénomènes conjoncturels. Alors qu'en dites-vous ?
Non, je pense qu'il y a une fragilité structurelle de la démocratie. Et elle a montré ses faiblesses dans les années 30 face au nazisme, très clairement. J'ai peur qu'elle soit en train de démontrer ses faiblesses face aux ambitions poutiniennes en ce moment. Cela dit, à partir de cette faiblesse structurelle, il y a évidemment l'évolution historique qui fait qu'elle est plus ou moins en danger ou qu'elle a plus ou moins de succès ou qu'elle a cette plus ou moins de force pour canaliser ce dont on parlait hier, c'est-à-dire les passions mauvaises, les passions tristes qui sont contraires aux principes démocratiques. Et si les démocrates ne croient plus en leurs propres valeurs, s'ils n'ont plus la volonté de les défendre, la fragilité alors se révèle avec toutes ses conséquences qui peuvent être tragiques. Spontanément, la démocratie n'est pas un régime très fort puisque elle reconnaît les oppositions, elle reconnaît les contre-pouvoirs, elle reconnaît la critique qui font partie de ses vertus, mais qui peuvent devenir des faiblesses. Et quand les faiblesses sont telles que le pouvoir ne peut plus imposer ses règles à la population et ne peut plus s'imposer face aux autres, car les démocraties sont toujours minoritaires dans le monde. Donc le problème de les défendre est un problème essentiel et de se défendre. Eh bien, si les démocrates ne veulent plus se défendre, les faiblesses structurelles, alors conduisent à la fin de la démocratie. C'est quand même, on a tout de même assisté à la fin de la démocratie en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Donc c'est possible.
C'est possible.
Elle est très fragile.
Elle est très fragile. Alors Valérie avait déjà eu cette impression après la Première Guerre mondiale, mais après la Seconde, enfin, étant donné l'expérience du XXe siècle, il n'est pas absurde de dire elle est particulièrement mortelle et particulièrement susceptible de se décomposer si les démocrates ne gardent pas la volonté de se défendre.
Même question, deuxième question schématique pour bien situer les choses, Dominique Schnapper. Après la question de la conjoncture et de la structure, est-ce que, selon vous, la crise de la démocratie aujourd'hui est endogène ou exogène ? Autrement dit, si je prends l'intérieur, en reprenant vos mots, on assiste à un délitement intérieur, vous allez nous expliquer en quoi. Et si on prend les facteurs extérieurs, on pense notamment à la montée des populismes ou des extrêmes, droite en l'occurrence beaucoup, et à celle des impérialismes. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus grand danger qui guette notre démocratie ?
Je pense que les deux phénomènes existent et d'ailleurs se renforcent l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un délitement intérieur du fait que la démocratie est devenue ce que de Platon à Montesquieu on a appelé une démocratie extrême, c'est-à-dire le moment où la liberté des individus prend le pas sur la nécessité des contraintes du collectif. Il n'y a pas de société sans des contraintes du collectif, et le respect des lois de l'état de droit et des institutions est une condition nécessaire pour que se maintienne la démocratie. Quand aucune règle, aucune institution, aucune contrainte n'est plus acceptée et considérée comme illégitime, il y a une forme de délitement de délitement de la démocratie.
Mais on en est là ?
Il y a un danger, il y a un risque. Il y a un risque.
À quoi le voyez-vous ?
Je le vois, par exemple, au fait qu'à l'Assemblée nationale, quand une loi a été passée, selon les règles constitutionnelles, qui peuvent être mauvaises, on peut les critiquer, mais elles existent, on a fait appel à la rue contre la décision. C'est un moment de remise en cause des principes de l'état de droit.
Est-ce qu'on peut pas dire que c'est aussi une revendication de plus d'égalité? Vous allez me dire justement.
Oui, certainement. C'est au nom des principes mêmes de la démocratie, c'est-à-dire toujours plus de liberté, toujours plus d'égalité, ce qui est parfaitement légitime, ce qui est au principe même de l'idée démocratique. Mais si elle se met à réclamer une égalité et une liberté impossible à réaliser, c'est ça la déception que nourrit la démocratie, eh bien, elle délite les contraintes qui permettent qu'existe une société. Et quand une société n'a plus de, ne respecte plus les contraintes, on est dans la loi du plus fort. La loi protège le faible.
Dans la préface en 2023 de La relation à l'autre, hein, de vos ouvrages, Dominique Schnapper, vous écrivez que l'acceptabilité des écarts entre les principes et l'application de ces principes est un facteur important. Et vous dites que si objectivement les inégalités sociales tendent à se réduire, cet affaiblissement n'est pas perçu comme tel, n'est pas ressenti comme tel, ce qui est exactement la loi de Tocqueville, le désir d'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. C'est ça qu'on vit, c'est ce moment-là qu'on vit.
C'est une des dimensions. C'est que l'aspiration à l'égalité ne peut jamais être totalement satisfaite. Elle ne peut pas, par définition, puisque nous sommes tous différents. Et des différences dans le monde de l'égalité sont perçues comme des inégalités. Au lieu d'être perçues comme des différences, elles sont inévitablement perçues comme des inégalités. Et donc, cette aspiration ne peut jamais être satisfaite et elle est sans limite. Et de même, la liberté ne peut pas être extrême puisqu'elle ne peut s'exprimer qu'à travers le respect du droit et des institutions. Et donc, il y a toujours des limites au sentiment de liberté. On a vu ça avec les réactions au vaccin ou au moment du confinement. Les antivax qui expliquaient que c'était contraire à leur liberté que de se faire vacciner.
Et en même temps, tout le monde s'est confiné, hein.
C'est vrai.
Il y a eu quand même un sens du collectif, peut-être mu par la peur, en tous les cas.
Mais en même temps, l'opposition au vaccin, c'était au nom de la liberté individuelle. Et c'est vrai que c'est une des contraintes de la vie collective que de se faire vacciner pour tenir compte du collectif et de la diffusion d'une maladie. C'est vrai que c'est une contrainte. Et donc, c'est une contrainte qui n'est pas contraire à la liberté politique, mais qui peut être contraire à l'aspiration à une liberté individuelle sans limite. Et c'est ça le danger qu'on peut observer dans les démocraties.
C'est très compliqué, en fait, parce que l'équilibre entre les aspirations qui peuvent paraître légitimes, parce qu'effectivement, notre démocratie est imparfaite.
Elles sont fondatrices, même, elles sont plus que légitimes.
Elle est inégalitaire sur le plan socio-économique, parfois même sur le plan des droits politiques. On a un mieux-être général si on prend un certain nombre d'années, mais pour certaines personnes, en tous les cas, elle n'est pas encore parfaitement égalitaire, c'est le moins qu'on puisse
dire. Non, mais elle n'est pas.
Et donc, les revendications peuvent paraître légitimes, mais il faut contenir ces revendications dans le cadre collectif. C'est ça, ce que vous dites.
Les fondements mêmes de la démocratie sont en tant que tels légitimes, mais ils ne peuvent devenir à peu près effectifs qu'à l'intérieur d'un certain nombre de contraintes qui peuvent apparaître, si on se met dans une perspective de la liberté et de l'égalité de chaque individu, comme contradictoires avec ces principes. Et c'est ça qui forme le sentiment d'insatisfaction profonde de la démocratie et qui sont structurelles, puisque vous posiez la question du structurel et conjoncturel. Structurellement, nous sommes insatisfaits. Et il faut jamais oublier que l'égalité proclamée est l'égalité civile, juridique et politique. Ce n'est pas l'égalité des conditions sociales. On retrouve le vieux débat marxiste sur les libertés réelles et les libertés, les fausses libertés. Donc, l'égalité sur un certain plan n'entraîne pas nécessairement l'égalité sur tous les plans. Et à partir du moment où on proclame l'égalité comme passion collective et comme principe d'organisation, il y a une aspiration à toutes les formes d'égalité et toutes les différences deviennent des inégalités et donc suscitent la critique et éventuellement des formes diverses de révolte. Et c'est au cœur de ce mécanisme de cette promesse qui ne peut pas être tenue, mais qui est plus tenu dans les démocraties que dans tous les autres régimes connus, que se niche l'inquiétude fondamentale, la critique fondamentale, le sentiment d'une espèce d'insuffisance qui fait que les sociétés risquent de se déliter. Et comme ce sont des sociétés qui sont minoritaires, dont les principes se sont diffusées sous des formes qui les ont trahies. Quand on parle de démocratie illibérale, c'est un oxymore. Le vote ne suffit pas à faire une démocratie, le vote doit reposer sur un certain mode de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire sur le respect des libertés publiques. À partir du moment où il n'y a pas de respect des libertés publiques, le vote n'a pas de sens. Et donc les démocraties libérales sont un vrai danger et une évolution vers ces régimes qu'on appelle populistes qui, au nom de l'élection du chef, fait que le chef se donne tous les pouvoirs. Ce qui est contradictoire avec l'idée démocratique.
Est-ce qu'il
repose quand même sur l'idée des pouvoirs, des contre-pouvoirs, de la critique, de la remise en cause, et du coup, d'une certaine façon de vivre ensemble.
Et d'une confiance.
Avec une certaine confiance.
Manifestement, nous sommes aussi, c'est ce que dit la dernière enquête du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française en date, je rappelle qu'on est en février 2025, on serait aussi les plus pessimistes parmi nos voisins européens, et la dissolution du Parlement en juin 2024 a aggravé le malaise politique. 76% des personnes interrogées déclarent ne pas faire confiance au gouvernement, 74% pensent la même chose pour l'Assemblée nationale et 72% pour l'institution présidentielle. La défiance envers les institutions est très forte. Or, on sait très bien aussi que pour que la fiction démocratique fonctionne, opère, il est nécessaire, voire indispensable, que les citoyens et les citoyennes y croient. Et pour qu'on y croit, il faut qu'on ait confiance, et cette confiance ne cesse de se dégrader. Alors comment on fait pour récupérer?
Comment on fait, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ce qu'on peut observer, c'est que c'est envers les institutions politiques elles-mêmes, c'est-à-dire les assemblées, le président, les partis politiques, et même les syndicats, que la confiance est la moins grande. Et on ne le dit pas trop dans le monde médiatique, mais la confiance est la plus grande dans les hôpitaux et la police. Ce qui est contre-intuitif en France. Alors, la France a moins confiance dans ses institutions politiques que la plupart des autres pays européens. Et je me demande, je l'explique mal, mais je me demande si ça ne tient pas justement au fait que nous sommes une vieille nation politique qui avons beaucoup d'exigences à l'égard du politique, qui avons eu longtemps le sentiment que nous étions une nation exceptionnelle, qui avions inventé la modernité, ce qui n'était pas vrai, elle était inventée aussi en Angleterre et aux États-Unis. Mais enfin, il y a eu un mythe de la nation française qui fait que nous attendons beaucoup du politique et que nous nous pensons en politique et que du coup, les limites inévitables de la démocratie sont ressenties d'une façon beaucoup plus forte que les autres pays européens. C'est l'hypothèse que je fais sans pouvoir la démontrer vraiment.
C'est aussi peut-être une crise de la démocratie dite représentative. De fait, la représentation, l'idée en France, c'est aussi que la représentation aujourd'hui ne reflète pas la diversité du pays, qu'elle soit diversité sociale ou qu'elle soit idéologique, qu'il y a un problème à l'Assemblée, que le scrutin majoritaire diminue la représentation de certaines sensibilités.
Oui, non, bon. C'est l'idée même de représentation qui est remise en cause. À partir du moment où chaque individu se veut absolument libre et absolument égal à tout le monde, personne ne peut le représenter sinon lui-même. Il ne peut pas accepter que... À partir du moment où on remet en cause l'idée d'autorité que donnent les institutions, c'est-à-dire celui qui va me représenter, qui est plus compétent, qui est éventuellement plus âgé, qui a une certaine caractéristique par laquelle il est justifié qu'il me représente, à partir du moment où on remet cette idée en question, tout est critiquable. Or, c'est ce qu'on observe. Je veux dire, les médecins observent que les patients discutent à partir de ce qu'ils ont vu sur Internet.
Certains le prennent très bien en disant « ils me font progresser mes patients ».
Voilà, oui. Et beaucoup le prennent très mal aussi.
Oui, c'est ça.
Voilà.
On est à un moment.
Mais ce n'est pas grave, là. Dans certains cas, la discussion et la critique sont favorables au développement, mais le non-respect des institutions politiques crée immédiatement une différence de statut entre celui qui est élu et celui qui a élu. Et cette différence est devenue insupportable pour des démocrates extrêmes qui considèrent que personne né au-dessus d'eux, que c'est pas parce qu'il a été élu. Quand on dit Manu, dire Monsieur le Président, c'est une certaine façon de ne pas accepter la distinction qu'apporte l'élection par elle-même. C'est l'élection qui change le statut des hommes politiques. C'est de respecter ce fondement de la légitimité qui est l'élection. Et quand ce fondement n'est pas respecté, c'est tout le système, toute la fiction de la République représentative qui est mise en question.
Et c'est aussi un problème qui vient des élites politiques, pas seulement donc des citoyens ou de certains citoyens. C'est général. Et le problème vient peut-être aussi des manquements
Principes
démocratiques.
Par définition, les institutions politiques manquent à leurs principes.
Il y a, plus ou moins.
Mais voilà, l'écart entre les principes et la réalisation est perçu de plus en plus comme scandaleux et donc donne le sentiment de s'écarter de plus en plus, que cet écart soit de plus en plus grand. Je pense que au début du siècle dernier, du 20e, la manière dont les hommes politiques se conduisaient n'était peut-être pas tout à fait meilleure que celle d'aujourd'hui, mais on n'avait pas les mêmes exigences à leur égard.
Il y a, sur les décennies que nous venons de traverser, bon, disons depuis que vous avez commencé vraiment à travailler dans les années 70, Dominique Schnapper, il y a eu des avancées considérables en matière démocratique et qui s'appliquent à divers pans de la société. Évidemment, le plus frappant, j'ai envie de dire, celui qui saute aux yeux, c'est peut-être celui qui concerne les femmes.
Les femmes, oui, voilà. Bien sûr. C'est une transformation considérable.
Là, c'est pas de la démocratie extrême.
Non, c'est le bon côté de la démocratie extrême, si je puis dire. Dans aucune société, les femmes ne connaissent un destin social aussi bon que dans les sociétés démocratiques. C'est évident. Car j'ai été très frappée par les travaux de Françoise Héritier qui montrent comment dans toutes les sociétés, à toutes les époques, le décalage entre le statut social des hommes et des femmes. Or, aujourd'hui, les mouvements les plus féministes, les plus radicaux, ne cessent de dénoncer ce qui reste d'inégalité dans une société dans laquelle leur statut n'a jamais été aussi favorable. Donc il faut garder les deux termes. Qu'on peut tout à fait, au nom des principes démocratiques, considérer comme un progrès, c'est-à-dire un statut de plus en plus égal des hommes et des femmes, et en même temps, ne pas vouloir que cette égalité soit une identité. L'égalité n'est pas l'identité.
En fait, vous n'oubliez jamais l'universalité ou l'universalisme.
Oui, l'universel, la dimension universelle.
L'universel. Parce que l'universalisme a été grandement remis en question.
Voilà. Non, l'universel
et
de la condition.
Et vous dites à juste titre. En revanche, l'universel doit rester un idéal.
Voilà, c'est un idéal, c'est une idée régulatrice, comme dit Kant, c'est un horizon. Et un des risques de la démocratie extrême, c'est de confondre égalité avec identité. Et liberté
et
avec libertarisme, c'est-à-dire non-respect des contraintes de la vie collective.
Et de revendiquer quelque chose pour soi, en soi, comme finalité, au lieu de le revendiquer
à l'intérieur
d'un collectif. C'est ça, hein, l'idée. Mais cela pose nécessairement, Dominique Schnapper, la question de la limite. À quelle limite ou à quelles conditions se limite-t-on ? Quelle est la bonne limite pour rester dans la bonne démocratie extrême, pour reprendre vos termes ? Et quelle est la limite qui fait qu'on franchit, qu'on passe de l'autre côté, que ça devient une mauvaise démocratie extrême ?
Oui, c'est tout le problème du destin humain hein, dont que nous choisissons individuellement et collectivement. Il me semble que le critère qu'on peut utiliser, c'est le moment où les revendications naturelles et légitimes des principes démocratiques ne remettent pas en cause le fonctionnement de la démocratie elle-même. Il y a un moment où elle empêche les institutions qui rendent effectifs ces principes, ne peut plus fonctionner parce que les demandes qui lui sont adressées sont totalement impossibles à satisfaire.
De quel œil regardez-vous les nouvelles tentatives qu'on a vues poindre ces dernières années pour améliorer la démocratie ou la prise de participation citoyenne? Je pense aux conventions citoyennes, aux nouvelles formes de délibération, à la participation citoyenne, quelle qu'elle soit.
Je pense qu'il faut multiplier les lieux du débat public. et que si le débat public se corrompt au niveau de d'un certain nombre d'institutions, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est un débat public qui ne donne pas une haute image de ce que doit être le débat public. Donc, multiplier les lieux du débat public, je pense que c'est favorable. Reste qu'il faut rigoureusement qu'il soit contenu dans les règles de la République représentative. C'est-à-dire que c'est pas sans citoyens choisis au hasard qui doivent prendre des décisions. Ils peuvent discuter, ils peuvent donner le résultat de leur réflexion, qui est un élément parmi d'autres, comme il y a aussi les médias, les livres, enfin, qui concourent au débat public, mais à condition qu'ils restent spécifiquement consultatifs, donnant des opinions, et qui ne dispose pas de la décision qui doit rester dans la légitimité que procure l'élection. Ce ne sont pas des élus.
Dominique Schnapper, concernant l'état dans lequel est notre société, comment formuler ça ? Simplement, est-ce que vous avez le sentiment que notre situation est grave, inédite ? Est-ce que on peut s'en sortir? Si on s'en sort, par quoi faut-il commencer? Parce que je sais bien que les sociologues, ils aiment bien constater et moins proposer. Mais là, je m'adresse aussi à la femme que vous êtes, à la citoyenne que vous êtes.
En effet, inédite, oui, parce que toute situation est par définition inédite et que nous conjuguons les faiblesses structurelles des démocraties, le reste du monde qui s'est considérablement développé, une révolution technologique que nous ne comprenons pas encore, mais qui évidemment est en train de transformer très profondément le monde tel qu'il est. Alors ces éléments, par définition, sont nouveaux. Donc la crise est inédite. Qu'elle soit grave, j'ai tendance à le penser. Et je ne veux pas non plus terminer nos entretiens sur un moment triste, mais je m'interroge pour savoir si vraiment les démocrates sont conscients des avantages extraordinaires qu'a été notre vie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans nos sociétés, car on n'a jamais connu pendant aussi longtemps des sociétés aussi riches et aussi libres que celles que nous avons connues. Et je m'interroge sur les nouvelles générations qui n'ont pas l'air d'avoir conscience de combien nous sommes finalement des privilégiés et que ces privilèges nous donnent, si nous voulons poursuivre, l'obligation de vouloir les défendre et de penser que leur défense est justifiée. Et tout ce qu'on connaît sur les jeunes générations, par mes collègues sociologues, n'ont pas l'air d'aller dans cette direction. Donc je pense que la situation est grave.
Vous avez écrit des mémoires, enfin sous forme de conversations, en 2013, Dominique Schnapper, que vous avez intitulées, je pense que c'est vous qui les avez intitulées comme cela, « Travailler et aimer », ce qui est pour une sociologue de votre trempe, on va dire, un titre assez atypique, là encore. Disons que peu d'hommes, je pense, auraient intitulé leur mémoire « Travailler et aimer ».
Le titre, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est une formule de Freud. L'être humain est celui qui peut aimer et travailler.
Ah, bon, on en apprend tous les jours, je ne le savais pas, vous voyez.
Et donc, j'ai repris cette formule parce qu'elle elle faisait écho à ce qu'avait été à la fois mon principe de vie et, j'espère, ma vie.
Vous avez passé une dizaine le 9 novembre 2024. Comment abordez-vous cette nouvelle décennie qui s'ouvre à vous ?
En essayant de continuer.
Eh bien, continuez. Merci beaucoup, Dominique Schnapper, pour ces 5 entretiens.
Merci à vous de votre écoute et de votre présence.
C'était À Voix Nue avec Dominique Schnapper, réalisation Asia Weber, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.